Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures où l'actu fricote dangereusement avec le rire dans d'un détonnant et subversif mélange des genres, un peu comme si Brassens reprenait du Booba.
Viens me sucer, je te paye ton billet, banane, plantain, poisson grillé, en déflon et mon nouveau gilet, calache à la main comme un yoga, j'y vais.
Eh oui, ça c'est détonnant. À suivre, les soldes d'hiver ont démarré, mais au fait, à quand remonte l'origine des soldes? Il fallait bien un agrégé d'histoire pour nous le raconter. Fabrice Almeida éclairera une fois de plus notre lanterne, mais juste avant, place à cette journaliste réputée pour son éthique. Une journaliste dont il est impossible, en écoutant son journal, de deviner ses opinions politiques.
Comment les Français peuvent trouver le gouvernement crédible?
Voici le journal de la camarade Céline Kallmann.
Merci d'écouter Europe 1. Nous sommes le jeudi 10 janvier. Et il est 6h. Très bon réveil. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 10 janvier. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Quand je vois ces images, je ne suis pas fière de moi. Les regrets de Christophe Détinger, le boxeur accusé d'avoir frappé des gendarmes, a été placé en détention provisoire. Procès programmé le 13 février. Le prélèvement à la source, Bercy l'assure, il n'y a pas de bug et les erreurs constatées peuvent être très vite corrigées. Et puis le Paris Saint-Germain éliminé de la Coupe de la Ligue par Guingamp, victoire 2-1, Jérôme Lacroix. Il reviendra en détail dans son journal des sports juste après cette édition.
Europe 1.
Il a donc passé sa première nuit en prison. Christophe Détinger a été placé hier soir en détention provisoire dans l'attente de son procès le 13 février. Il est poursuivi pour l'agression de 2 gendarmes samedi dernier en marge de la mobilisation des Gilets jaunes à Paris. Le boxeur n'a pas pu réprimer ses sanglots. « Je regrette mes actes, je ne suis pas fier de moi, j'ai 3 enfants à élever correctement », a-t-il dit. Ses avocats ont sollicité un délai pour préparer sa défense et il a donc été écroué en attendant une décision accueillie par les cris de ses proches et soutiens présents en nombre dans la salle. Son avocat, maître Hugues Vigier, estime qu'il est victime de pression politique.
Quand on ne comprend pas une décision, quand on ne la trouve pas juste, on a forcément le sentiment dans ce type d'affaires que peut-être c'est la pression politique, c'est cette espèce d'injonction faite par le politique qui ferait mieux de respecter en permanence la séparation des pouvoirs, qui ne le fait que quand l'un des leurs est mis en examen en disant « je ne commande pas parce qu'il y a la justice qui doit passer » et qui quand par contre il veut clouer au pilori quelqu'un, demande exactement l'inverse en disant au juge en gros qu'il faut qu'il fasse son travail avec la plus grande fermeté, la plus grande sévérité. En somme, on ne respecte l'indépendance de la justice que quand ça arrange et sinon le pouvoir exécutif passe son temps à faire effectivement des injonction au juge.
Maître Vigier au micro de Rémi Bossaron. 3 personnes mises en examen, 29 toujours en garde à vue hier soir après l'incendie d'un bâtiment de Vinci. C'était en décembre dernier à Bessant sur l'autoroute A9. Mardi, une vague d'interpellations a été menée par une centaine de gendarmes. Le parquet n'a requis aucune condamnation au procès du cardinal Barbarin, procès qui doit s'achever aujourd'hui. Le cardinal est jugé pour non-dénonciation d'agression sexuelle de mineurs.
Le prélèvement à la source, les premiers bugs apparaissent, mais Bercy veut rassurer le contribuable.
Des erreurs ont en effet été constatées, notamment sur les taux, mais à Bercy, on le martèle, il n'y a pas de problème. Seuls quelques cas, quelques situations incomprises et des soucis d'identification par l'administration fiscale. Les explications d'Anne-Laure Jumet pour Europe 1.
À Bercy, on veut en effet désamorcer les premières erreurs constatées et on affirme que c'est lié à 2 cas de figure. Première situation, c'est d'ailleurs la plus fréquente, dit-on au ministère du Budget, le contribuable pense qu'il y a une erreur alors que ce n'est pas le cas, car le taux de prélèvement à la source est défini en fonction du revenu net imposable qui est un peu plus élevé que celui qu'on perçoit tous les mois, d'où parfois des incompréhensions. Et puis, 2e cas de figure, des contribuables se voient appliquer un taux neutre alors qu'ils ne l'ont pas choisi. Ce taux neutre, rappelons-le, est basé sur le seul salaire et ne tient pas compte de la situation familiale. Et ça, c'est, selon Bercy, lié au fait que l'administration fiscale n'a pas réussi à vous identifier. Il peut y avoir des problèmes d'état civil, une erreur d'orthographe ou de date de naissance qui fait que le contribuable n'est pas reconnu ou encore des homonymies quasiment parfaites. Bref, quelques milliers de cas ont été recensés, dit-on au ministère du Budget, et ça peut bien sûr être corrigé. Si ça vous concerne, vous pouvez le signaler au fisc et le changement sera pris en compte dans les 1 ou 2 mois. Vous pourrez même demander, le cas échéant, un remboursement pour le trop perçu.
Anne-Laure Jumet. Laurent Wauquiez s'exprime ce matin dans le journal Les Échos. Le patron des Républicains estime que le débat national qui va s'ouvrir pour répondre à la crise des Gilets jaunes doit être ouvert et que le gouvernement ne peut en verrouiller les thèmes. Il ne serait pas normal, dit-il, que les questions d'immigration et de communautarisme soient exclues du débat.
Un appel d'offres va être lancé à partir de 2020 pour la mise en concurrence de deux lignes de trains intercités.
Oui, Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon. L'État emboîte le pas à la réforme votée en juin dernier. En clair, un seul opérateur pourra remporter chaque ligne, mais dans les faits, aucun ne pourra les gérer avant 2022. Décryptage avec Aurélien Fleuron.
C'est le premier exemple concret de l'ouverture à la concurrence et il concerne des lignes gérées par l'État, les intercités exploitées par la SNCF et qui bientôt le seront peut-être par d'autres opérateurs comme le français Transdev ou l'allemand Arriva, filiale de la Deutsche Bahn. Dans les faits, ce ne sera pas avant 2022, le temps d'abord de boucler la nouvelle convention collective du secteur et surtout de lancer l'appel d'offres. Pourquoi le gouvernement a-t-il choisi ces deux lignes? Parce que Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux sont les deux seules lignes jugées prêtes, leur matériel vient d'être renouvelé, des trains neufs, c'est plus simple pour un éventuel nouvel arrivant. Ce changement d'opérateur pourrait concerner quelques dizaines de cheminots, même si les modalités précises d'un transfert restent encore à définir. Sur ces lignes, les usagers n'auront qu'un seul opérateur, celui qui a gagné l'appel d'offres. Même schéma pour les TER, où là, les appels d'offres seront lancés par les régions, contrairement au TGV, où là, il y aura une concurrence frontale avec potentiellement plusieurs compagnies pour une même ligne.
Aurélien Fleurot, en République démocratique du Congo, le candidat de l'opposition Félix Tshisekedi déclaré vainqueur de la présidentielle avec plus de 38% des suffrages exprimés. Un de ses opposants dénonce à l'instant un putsch électoral, un résultat qui peut donc encore faire l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle qui proclamera les résultats définitifs d'ici au 15 janvier.
Les victoires de la musique 2019 et on connaît depuis hier les nommés.
Et du côté des révélations, c'est la jeune chanteuse belge de 23 ans, Angèle, qui risque bien de tout rafler. Moi j'adore personnellement, en tout cas, pour la révélation album et pour son clip Tout oublié, chanté en duo avec son frère, le rappeur Roméo Elvis.
Ouais, c'est trop cool parce que pour tous les gens aussi qui ont bossé dur avec moi et notamment le clip. Et l'album, c'est la consécration pour moi d'être nominée devant ma tête, mon nom, la photo de moi là, ça me fait trop bizarre. D'avoir mon nom dans l'histoire des victoires, rien que comme ça, ça me suffit largement. Tout, il faudra tout oublier. Bah, la récompense, c'est de pouvoir faire ce métier et de pouvoir le continuer, mais je dirais que c'est une sorte de petit coup de pouce quoi en plus, une sorte de cadeau, de bonus, vachement cool. J'aime bien être sur scène avec des vrais gens, c'est pour ça, c'est mon rêve absolu. Après, oui, remporter un prix, évidemment que c'est très très flatteur, c'est très cool, mais y être nominée, c'est d'autant plus important en fait. Parce que remporter le prix, disons que c'est la finalité, mais pour moi, ça se joue à peu en fait. Bonjour, mélangez ton jouet,
ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Et nous avons une petite impro en direct de Céline Kallmann, qui décidément a tous les talents.
J'adore
Angèle avec Diane Chenouda.
Angèle avec Diane Chenouda, c'est un nouveau duo. Ça pourrait être assez cocasse.
Au
Angèle et Diane Chenouda.
De Diane Chenouda. Et sachez que la 34e édition donc des Victoires de la musique, ce sera le vendredi 8 février.
Présenté par
Daphné Burki.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Et dites-moi, Céline. Tout à fait entre nous. Hein. Je n'ai pas oublié cette soirée du CE où vos yeux brillaient d'un désir presque animal. Vous savez, j'ai eu le temps de pas mal réfléchir à cette petite phrase que vous m'avez dite ce soir-là. Eh bien, je suis d'accord.
Non, je parlais à l'homme derrière toi.
Nicolas. Oh, le coup est rude, Céline. Allez-vous-en.
Il est 6h07, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et ce matin, alors que le coup d'envoi des soldes d'hiver a été donné, Fabrice Dalméda revient sur l'origine historique des soldes.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
6h08, l'heure d'un point sur la météo de ce jeudi avec vous, Céline Dacosta. Un ciel plus clément aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, hein, plus lumineux avec des éclaircies pour presque tout le monde. Là où ça va rester couvert, c'est sur les Pyrénées, du centre-est au nord-est avec de la neige sur les sommets. Encore du vent près de la Méditerranée, même s'il va faiblir un petit peu cet après-midi, alors légèrement. Et les nuages vont revenir doucement sur la moitié nord. Profitez-en, dès demain, le ciel sera à nouveau bien couvert. Et puis il fait froid, moins 2 à 5 degrés en moyenne ce matin et de 1 à 8 degrés seulement pour cet après-midi.
Merci Céline. Eva Rock.
Il y a 90 ans était publiée la première aventure de Tintin et depuis ce matin vous nous dites quel est votre album préféré. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire le message de 2020 qui nous dit les 7 boules de cristal carrément magiques avec tous ces gens qui devenaient fous, la malédiction, le siège qui partait en lévitation. Ah tiens, il pensait ça aurait fait un bon titre de film X. Merci voilà. Beaucoup, vous pouvez continuer.
C'est
avec l'hashtag Europe 1.
Mais Eva, pensez que vous avons eu deux thés dans Télérama, vous voulez les perdre tout de suite?
Mais c'est pas moi, je lis les auditeurs.
On les embrasse, merci.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ah, quelle joie d'accueillir en studio le monsieur sport d'Europe 1, Jérôme Lacroix, dont l'épouse, Madame Lacroix, a dû être très émue hier en constatant qu'on avait pensé à célébrer son anniversaire à l'antenne. Vous voyez l'anniversaire de Puff Daddy au Madison Square Garden, celui où il avait fait livrer 17 000 magnums de champagne par drone? Eh ben, c'était à peu près du même acabit.
Bon anniversaire! On aurait pu lui faire un petit gâteau.
Oui, on aurait pu.
Oui.
Mais c'est bien d'avoir l'idée. Là.
C'est l'intention qui compte. Hein.
Évidemment. Et oui, c'est ce qu'on appelle mettre les petits plats dans les grands. Jérôme, on passe au journal des sports.
T'es quand même flatté.
Elle n'est pas difficile. À la une, un vent breton qui a soufflé fort sur Paris.
Les derniers de la Ligue 1, mais les premiers cette saison à battre les stars parisiennes dans une compétition française. Les Guingampais ont gagné hier soir au Parc des Princes 2-1, éliminant le PSG de la Coupe de la Ligue dès les quarts de finale. Scénario rarissime. 3 pénaltys accordés en une seule période, tous en faveur de la même équipe, donc Guingamp. Et ils sont justifiés, sauf peut-être le deuxième moins évident, mais accordé après appel à l'assistance vidéo. Un homme dans ce match, le Guingampais, Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram. On vous en parlait hier, auteur du pénalty de la victoire. Dans les ultimes instants, il raconte son sentiment à l'issue du coup de sifflet final.
On est soulagé que ce soit fini, parce qu'il pousse, il pousse, il pousse, et on se dit... C'est le PSG, à un moment donné on va craquer, mais on n'a pas craqué, donc ouais, soulagé, on est content que ce soit fini.
Et l'attaquant Marcus Thuram au micro de Cyril de la Morinerie. Côté Paris, l'entraîneur Thomas Tuchel un peu en colère après tous ses pénaltys, mais il a aussi reconnu que son équipe avait failli par excès de confiance. Cela faisait 44 matchs, 5 ans que les Parisiens n'avaient plus été éliminés dans une coupe nationale.
Les Guingampais sont donc en demi-finale, tout comme les Monégasques.
Victoire contre Rennes après une folle séance de tir au but, 8-7 un partout à l'issue du temps réglementaire. Le gardien monégasque a marqué lui-même le tir au but victorieux après en avoir stoppé 3 lors de la séance. Les Bordelais de leur côté ont battu les Havrais 1-0. Tirage au sort des demi ce soir. Le Dakar et Sébastien Loeb, père gros, 11e de la 3e étape hier au Pérou, à plus de 40 minutes du vainqueur, Stéphane Peter Hansel, autre français.
On parle aussi handball ce matin et le mondial, c'est parti.
Et oui, c'est au Danemark et en Allemagne. Les deux pays hautes ouvrent le bal ce soir, respectivement face au Chili et à la Corée. Les Bleus, c'est demain. France-Brésil, double champion du monde en titre. Tout le monde veut les battre. Eux, ils visent une 7e étoile sur le maillot, mais aussi la qualification directe qu'offre le titre mondial pour les JO de Tokyo. L'année prochaine, le sélectionneur tricolore Didier Dinard.
On a la qualification en poche pour Paris 2024 parce que la France organise. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de certitude pour Tokyo et ça reste quand même un objectif majeur de l'équipe de France.
France-Brésil, entrée en liste des Bleus au Mondial de handball demain 20h30, compétition à vivre sur Europe 1.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
On reste dans le handball et c'est un grand nom du handball féminin, mais elle veut que son identité change désormais. C'est l'histoire de Louise Sand, internationale suédoise, plus de 100 sélections nationales. Elle veut désormais s'appeler Louis sans S, L-O-U-I. Lundi, elle annonçait à 26 ans prendre sa retraite sportive pour une nouvelle vie. « Je suis née dans le mauvais corps », annonçant ainsi être transsexuelle. Elle souhaite désormais devenir un homme aux yeux de la justice et aux yeux de tous.
C'était le journal des sports extrêmement complet, comme d'habitude, de Jérôme Lacroix, dont on embrasse évidemment une fois de plus l'épouse. Bon, on n'a toujours pas de gâteau, mais comme dirait Eva, c'est l'intention qui compte.
Ah, c'est gentil, elle va être contente.
Ne soyez pas faux cul non plus. D'autant que voici le moment que vous préférez, le moment où vos muscles se relâchent et où vos neurones se contractent. La chronique histoire du seul, de l'unique.
Oh, d'Almeida.
Europe 1.
Je vous ai compris!
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à toutes et à tous.
On sait où vous étiez hier, c'était le début des soldes. Mais quelle est l'origine historique des soldes?
C'est une invention française, cocorico, avec deux accoucheurs. Le premier, Simon Manoury, a été le patron du second, Aristide Boussicot, dans un magasin de tissus, le Petit Saint-Antoine, situé rue du Bac. Manoury aurait eu l'idée de vendre à bas prix un rouleau de tissu sale. Or, en argot à l'époque, un solde était un morceau de tissu invendu, pour ne pas dire invendable. Boussicot reprend cette idée dans le magasin où il s'installe avec sa femme Marguerite en 1852 au Bon Marché. Il est situé au croisement des rues de Sèvres et de Babylone.
Et comment il s'y est pris ?
En s'attaquant au prix. À l'époque, il n'existe pas d'affichage systématique. On négocie à la tête du client. Or, chez Boussicot, les prix sont connus, visibles et bas. Il peut avoir cette transparence parce qu'il vend avec une marge plus faible que dans les petits commerces de détail parisiens. Son grand magasin lui permet de vendre plus. En fait, Boussicaut est l'inventeur mondial du système des grands magasins, imité partout après la construction de son nouveau bâtiment, par Eiffel, s'il vous plaît, les nouveaux bons marchés en 1869. C'est là que pour écouler ses fins de stock et casser les prix, il crée une période de solde annuel à partir de 1873, le mois du blanc, en janvier. À l'époque, il n'existait aucune réglementation qui fixait les montants des rabais ou la durée des soldes, donc il faisait tout selon ses désirs.
Et qui a profité de ces premières soldes ?
Ah, des femmes, bien sûr, mais plutôt fortunées, car dans ce quartier central de Paris, à Sèvres-Babylone, le public est aisé et Boussicaut fera même construire un palace, le Lutetia, pour accueillir ses riches clients, provinciaux ou étrangers. En fait, ce sont les riches qui ont commencé à bénéficier des soldes et qui ont créé des habitudes dont nous, les classes moyennes et populaires, profitons aujourd'hui.
Merci beaucoup Fabrice Almeida. Je ne savais rien de tout ça, c'était très intéressant. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1. Et il est 6h15 justement, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. Et ce matin, attention les filles.
Il va y avoir du sport.
Oui, alors plus que du sport, hein, du sport extrême.
Ah ouais.
Ah ouais.
Oui, non, pas celui-là. Non, à 6h20, nous recevrons Stéphanie Jiquel, une ultra-marathonienne. Elle va enchaîner 7 marathons à travers le monde à partir de janvier. Céline, je vous laisse deviner sa devise.
Vive la raclette.
Pas vraiment. C'est à suivre sur Europe 1, mais d'abord un peu de musique. Voici Girls Like You, Maroon 5.
Europe 1, il est 6h18, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos avec ceux qui la font comme notre invitée dans quelques instants. Elle s'appelle Stéphanie Jiquel. Elle est ce qu'on appelle une ultra-marathonienne. Elle s'apprête à enchaîner 7 marathons à travers le monde à partir de la fin du mois. Mais comment peut-on enchaîner 7 marathons quand on voit combien le corps humain souffre, surtout celui de Laurent Cabrol, pour simplement traverser une rédaction d'un pas rapide?
Je suis un peu soufflé parce que on a un nouveau studio, ils sont, on va faire 300 mètres pour aller.
Alors, 7 marathons, ça laisse pantois, pas vrai Lolo? Ah, on l'a perdu.
Il est 6h21, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Oui, s'il n'y avait que 2 infos à retenir aujourd'hui, Christophe Dettinger, placé en détention provisoire dans l'attente de son procès, renvoyé au 13 février, le boxeur comparaissait devant le tribunal de Paris pour violence volontaire contre les forces de l'ordre. Et puis, le coup dur pour le PSG, éliminé de la Coupe de la Ligue en quart de finale par Guingamp 2-1 au Parc des Princes. Les Parisiens enregistrent leur première défaite de la saison sur le plan national. Monaco s'est en revanche qualifié pour les demi-finales en battant Rennes.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
C'était l'essentiel de l'actu de ce jeudi 10 janvier. Et ce matin, Eva, Céline, j'ai décidé qu'on allait se remettre au sport. Alors j'ai convoqué une coach adaptée à la situation. Stéphanie Jiquel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sportive et exploratrice de l'extrême. Rien que votre CV me donne des palpitations. Marathon autour du pôle Nord, traversée de l'Antarctique, qui fut la plus longue expédition à ski sans voile de traction réalisée par une femme. C'est d'ailleurs homologué au Guinness Book des records. Championne de France d'athlétisme. Vous avez également écrit un livre intitulé « On est tous aventuriers ». J'ai envie de vous dire non.
Je vous assure que oui.
C'est vrai, il faut que je lise le livre. Mais... Alors, en ce début janvier, alors où la plupart des gens caressent mollement l'idée de se remettre au sport, vous vous apprêtez à enchaîner 7 marathons. Ma première question est toute simple, pourquoi ?
Alors, j'aime énormément la course à pied. J'ai commencé initialement à courir pour le loisir, ensuite pour parcourir le monde, pour faire corps avec la nature. Et puis, comme j'aime beaucoup le changement et l'aventure, sortir de ma zone de confort, je me suis mis à la compétition il y a quelques années, et en particulier à la performance. Et donc aujourd'hui... je pars sur cette course pour essayer de performer, de faire un bon chrono. Et j'aime énormément l'endurance aussi. Je pense que c'est une belle illustration de la vie, savoir persévérer, continuer, surmonter les obstacles. C'est pourquoi j'aime beaucoup la course à pied sur l'ultra distance.
À mon sens, moi qui ai un peu enquêté pour
ça.
Vous n'êtes pas remonté assez loin dans votre biographie. Il paraît que vous étiez une jeune fille que la course à pied ennuyait profondément. C'est ce que j'ai lu. Alors comment c'est possible ?
Quand j'étais toute petite, effectivement, courir 40 minutes, c'était compliqué. Mais je pense pour beaucoup de jeunes, c'est difficile. En fait, les sports d'endurance sont compliqués à gérer quand on a 12, 13 ans. Et puis, peu à peu, je me suis mis à la course sur ultra-distance pour parcourir le monde. Je ne voyageais pas quand j'étais jeune. Et je me suis dit que c'était un bon moyen d'aller en dehors des routes, en dehors des lieux accessibles par moyens motorisés. Et effectivement, ça a été le cas. Et là, j'ai commencé à courir 10, 20, 30 km par jour, à voyager, à parcourir des GR.
Mais attendez, ça veut dire que quand vous courez de telles distances, qui sont quand même monstrueuses, vous arrivez à rester dans une attitude contemplative vis-à-vis de la nature et à profiter par exemple du paysage ?
Oui, à force d'entraînement, on y parvient. Alors par contre, j'ai couru par exemple en octobre le 24 heures, une discipline qui consiste à courir pendant 24 heures. J'ai fait 215
km. 215
km. Et c'est vrai qu'à la fin, à partir de 20 heures, on est un peu plus en souffrance. Et là, pour le coup, on ne peut pas vraiment contempler l'environnement. Mais il y a des moments, et notamment quand j'ai traversé l'Antarctique, il y a des moments quand il faisait moins 35 avec peu de vent, je pouvais contempler la nature et c'est vraiment ça qui me plaît. Par contre, quand il fait moins 50 et qu'on a des rafales de vent à 80 km/h, là pour le coup, on est en situation de survie, on ne contemple pas.
Et vous n'abandonnez jamais ?
Alors, j'ai abandonné une fois il y a quelques années sur une course et je me suis juré aujourd'hui, quand j'ai un objectif, de m'y tenir parce que l'abandon, en fait, on ne l'oublie pas. C'est-à-dire qu'on oublie parfois les difficultés lorsqu'on atteint un objectif. Les difficultés sur un chemin, on a tendance à les amoindrir. Quand j'ai traversé l'Antarctique, j'ai eu une rage de dents pendant un mois. J'ai eu pas mal de difficultés, des moments de fièvre. J'ai eu très faim aussi. Je pesais moins de 40 kilos quand j'ai terminé cette expédition. Donc, il y avait eu pas mal de souffrances, mais on a tendance à les amoindrir avec le temps. On retient surtout l'objectif atteint, la plénitude, l'accomplissement, alors que l'abandon, lui, on l'oublie jamais. On se dit, mais pourquoi ce jour-là j'ai abandonné ? Alors, sauf blessure, évidemment, quand j'ai une blessure,
oui,
j'abandonne,
on est obligé.
Et ça, c'est naturel.
Souffrance pendant la course, on imagine, mais on imagine aussi un mode de vie un peu particulier. J'imagine que vous, le matin, contrairement à moi, vous vous envoyez pas 10 chouquettes et 3 chaussons aux pommes. Je pense que ça doit être très rigoureux. Vous devez manger de manière très précise. Enfin, ça doit être un mode de vie monacal.
Alors, il faut faire attention, effectivement, à la nutrition, l'alimentation, l'hydratation, la récupération, le sommeil aussi. Par contre, il y a des moments durant l'année où il faut se laisser vraiment le temps de profiter. Ça peut être 3 semaines, 1 mois, durant lequel je fais beaucoup moins attention parce qu'on a besoin aussi de moments de repos pour pouvoir se lancer à nouveau dans d'autres objectifs et dans une nouvelle saison.
Eva Rock.
De moments de repos, vous allez en prendre quelques jours avant donc de vous lancer dans ce défi. Est-ce que vous pouvez nous raconter vraiment ce que c'est que ce défi, hein ?
Alors, je vais courir 7 marathons en 7 jours consécutifs sur 7 continents. Je vais commencer par l'Antarctique. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience parce que j'aime énormément ce continent. J'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises, notamment pour une longue expédition. Donc, il me tarde d'y retourner. Je vais aller dans une base que je ne connais pas encore là-bas. Et puis ensuite, je vais aller à Perth, je vais aller à Dubaï, je vais aller à Madrid, à Santiago, à Miami.
Et tout ça en 7 jours ?
En 7 jours, exactement.
Donc, avec le décalage horaire ?
Voilà. Alors, la complexité, en fait, c'est justement d'avoir des temps de récupération qui sont très courts, qui sont inconfortables. On n'a plus aucun fuseau horaire. Donc on dort quand on peut dormir. On
dans
mange
l'avion,
avant les courses. Ouais. Exactement.
Pardonnez-moi, mais ça a déjà été fait, ça ?
Oui, effectivement, c'est une course qui existe, qui est organisée par un Irlandais. Et mon objectif, ce serait éventuellement d'aller chercher la meilleure performance féminine. Il faut savoir qu'il y a quand même du niveau sur cette compétition. Elle est de plus en plus pratiquée. Et bon, voilà, je vais essayer de faire le maximum. Et il y a beaucoup d'inconnus, je suis vraiment dans l'aventure au sens où je le définis dans mon livre, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort. Et là, pour le coup, c'est une compétition qui est un peu différente de celle pour laquelle j'ai l'habitude de m'entraîner. Donc, il y a beaucoup d'inconnus, mais c'est ça que j'aime bien aussi, pouvoir s'adapter.
Stéphanie Jiquel, je penserai à vous tout à l'heure quand dans la piscine, j'en serai à mon 2e kilomètre et que je me dirai que c'est trop long. J'essaierai de trouver l'énergie dans vos mots. Merci Stéphanie Jiquel, on redonne le titre de votre livre. On est tous aventuriers aux éditions Ramsay. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci à vous. Europe 1. Il est 6h27, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h32, David Doucan. La météo revient et vous savez quoi ? Le soleil aussi.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Avant de retrouver le journal de 6h30, voici la météo de Céline Dacosta. Un temps plus calme pour cette journée.
Oui, on en profite. Hein. Des éclaircies quasiment partout. Grand soleil toujours près de la Méditerranée avec un vent qui va faiblir légèrement cet après-midi. Là où ça reste couvert, c'est sur les Pyrénées et du centre-est au nord-est avec encore des chutes de neige en altitude. Les températures sont froides. Hein. Moins 7 en ce moment à Chamonix. Il en fait 0 à Mulhouse, 2 à Lyon, à Lille, 3 à Paris, 5 à Perpignan et 7 à Toulon.
Et cet après-midi ?
On aura un petit peu plus de nuages sur la moitié nord, mais encore des éclaircies. Toujours de larges éclaircies là, entre la région centre, la Bourgogne et surtout l'ouest du pays. Et puis ça restera couvert sur les Pyrénées et de la région Rhône-Alpes au Grand Est. Toujours beaucoup de soleil sur les côtes méditerranéennes et la Corse avec du vent sur les sommets, là où c'est couvert, un petit peu de neige. Et puis côté thermomètre, la moyenne ira de 1 à 8 degrés. Il en fera 5 à Paris, un petit peu plus doux, comme souvent près de la Méditerranée, avec 12 degrés à Bastia ou encore 13 à Toulon.
Merci Céline.
Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos et de bonne humeur grâce notamment aux contributions, certes involontaires mais néanmoins très efficaces, de mes deux complices Céline Dacosta et Eva Rock, plus connues dans le métier comme les vraies Catherine et Liliane. Comme en témoigne, plus que ce son, ce document saisi sur le vif, alors que nous écoutions un titre de la chanteuse belge Angèle.
Non, j'ai lu qu'elle, c'était la fille
d'artiste.
Ils ont fait un truc connu.
Pas tant que ça.
Si, hein. Monsieur, madame.
C'est madame, monsieur.
Oui, mais moi, je pensais pas à ça. Je pensais à vacances en Italie, machin.
Nelly Cube.
Non, mais il me semble que c'est ça, oui, en plus.
Mais ça n'a rien à voir.
Bon, en fait, c'est pas ça, du tout. Mais tu vois.
Et oui, on voit ça pour voir, on voit, c'est bien.
Ça a été très
heureusement,
long en plus.
Ils sont très nombreux. Heureusement, de vrais professionnels de l'info arrivent pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Politique, économie, médias, les trois fantastiques vous livrent leur vision de l'actu, toujours singulière, mais toujours argumentée. Au programme notamment ce matin, l'année record de Panini, grâce notamment à la Coupe du Monde. Et cette question politique, au fait, quoi de neuf à gauche ?
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Le français Mehdi Nemmouche est jugé à partir d'aujourd'hui à Bruxelles pour la tuerie du musée juif en 2014. C'est le procès du premier attentat commis en Europe par un djihadiste revenu de Syrie. Connaissez-vous Bourtheroult ? C'est une petite ville de 3800 habitants dans l'Eure. Toute la France la regardera la semaine prochaine puisque c'est là-bas que le président Macron lancera son grand débat national. Les Théroules de Bourges ont beaucoup de choses à dire. Reportage à suivre. Et puis si on essayait de sauver des vies, le cancer du col de l'utérus cause la mort de 1000 femmes chaque année. On peut faire baisser ce chiffre en généralisant le dépistage. Notre spécialiste santé vous explique tout dans un instant.
Europe 1.
Mehdi Nemmouche, 33 ans, né à Roubaix, comparaît aujourd'hui et pour cette semaine devant une cour d'assises belge. Il est accusé d'être l'auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles qui avait fait 4 morts le 24 mai 2014. 4 morts en à peine plus d'une minute. Salomé Legrand.
82 secondes et un sang-froid de professionnel. L'homme qui pénètre dans le musée juif de Bruxelles ce samedi après-midi de mai a repéré les lieux la veille. Il abat ses deux premières victimes, un couple de quinquagénaires israéliens qui consultaient des prospectus d'un tir dans la nuque à bout portant. C'est ensuite un jeune employé belge qui est touché d'une balle dans la tête. Quand le tueur s'approche d'une Française, bénévole au musée, recroquevillée derrière un bureau, son arme s'enraye. Il en saisit une autre dans un sac, une Kalachnikov, s'avance, vise, tire et ressort. 82 secondes et 13 coups de feu avant de repartir calmement, se fondant dans la foule. Mehdi Nemmouche est arrêté 6 jours plus tard à Marseille. Grâce à un contrôle inopiné des douaniers, il est à bord d'un car en provenance de Belgique. Depuis, il a peu parlé, toujours nié son implication, malgré les bandes-sons de revendications retrouvées sur son ordinateur, malgré aussi les nombreux éléments matériels qui l'accablent, dont les armes retrouvées dans son sac. Si les jurés retiennent sa culpabilité, Mehdi Nemmouche sera condamné pour le premier des attentats commis en Europe par des djihadistes de retour de Syrie.
Salomé Legrand pour Europe 1. Mehdi Nemmouche, qui est également soupçonné d'avoir été le geôlier des 4 journalistes otages français en Syrie, parmi eux notre collègue ici à Europe 1, Didier François.
Didier François qui répondra d'ailleurs aux questions de Nikos Aliagas tout à l'heure à 7h45.
Emmanuel Macron mise beaucoup sur ce grand débat national. Son organisation fait polémique depuis quelques jours, mais le président espère en faire un événement populaire, un outil pour relancer son quinquennat. Il donnera d'ailleurs lui-même le coup d'envoi de cette concertation mardi prochain. Il a choisi la petite ville de Bourtheroult, 3800 habitants dans l'Eure. Ce sera aussi le point de départ d'un tour de France à la rencontre des maires du pays. Reportage dans ce bourg qui sera la semaine prochaine au centre de toutes les attentions. Jean-Gabriel Bourgeois.
Je viens ici à Bourtheroult.
Passé la surprise de la visite d'Emmanuel Macron dans la commune, petite déception, les habitants ne pourront pas directement s'adresser au président.
Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas le voir. Moi, j'aurais bien voulu lui parler en tant que citoyen. Pour l'instant, il va voir les élus. Là.
Ce sont en effet les élus du département et de la région qui sont conviés pour cette rencontre, pour faire remonter les doléances de la population. Vincent Martin, le maire de Grand Bourtheroult.
Il y a énormément de pages puisque les gens viennent et donc peuvent inscrire leurs doléances. Oui.
Mais c'est bien la colère de la rue qui voudrait s'exprimer face au président. Bénédicte Labouchère ne cache pas son agacement.
Je pense que c'est une manière de gagner du temps. Il va falloir qu'il change quand même sa politique. Quoi. Je pense qu'il est en train de mettre le feu aux poudres.
Un gilet jaune sur le tableau de bord de sa voiture, Franck est loin d'être convaincu par ce débat.
Ce qu'il va dire, est-ce que ça va être concret, ce qu'il va le faire directement ou est-ce que c'est juste des paroles en l'air quoi.
Les gilets jaunes qui réfléchissent déjà à un comité d'accueil pour le président mardi prochain. Grand Bourtheroult, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
En attendant, Emmanuel Macron rencontre ce matin à l'Élysée les représentants des cultes en présence du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Au menu de la réunion, le projet de réforme de la loi de 1905 qui régit la laïcité en France. Concernant l'ancien champion de boxe filmé en train de frapper 2 gendarmes samedi dernier, Christophe Détinger a été placé en détention provisoire. Il restera donc en prison jusqu'à son procès prévu le 13 février prochain.
Europe 1, il est 6h35.
Venons-en maintenant au procès Barbarin, dernière journée ce jeudi.
Oui, et hier, le parquet n'a requis aucune condamnation, notamment parce que les faits imputables au cardinal Philippe Barbarin avant 2013 sont prescrits. Jean-Luc Boujon, qui suit l'audience pour Europe 1, nous explique tout.
Ces réquisitions ne sont pas une surprise. La procureure de la République a marché dans les pas du parquet de Lyon qui avait classé sans suite le dossier en août 2016. Le délit de non-dénonciation n'est pas constitué, a-t-elle estimé, car d'une part, la majorité des faits sont prescrits. D'autre part, le cardinal Barbarin, quand il reçoit une victime du père Prénat en 2014, ne la décourage pas de porter plainte. Certes, il ne le fait pas lui-même, mais il l'incite à agir. C'est conforme à ce que nous disons depuis le début, se réjouit maître Jean-Félix Luciani, l'avocat du cardinal.
Le dossier est exactement au même stade qu'il l'était en 2016. Lorsque le parquet, le 1er août, a dit qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments à charge pour renvoyer même ce dossier devant un tribunal.
Sauf que la différence avec 2016, c'est qu'il y a eu ces 3 jours d'audience, 3 jours qui ont mis en lumière ces 9 victimes, leur vie brisée, leur famille qui explose ou tout simplement leur difficulté à vivre. Du coup, ces réquisitions sont dures à avaler pour Pierre-Emmanuel Germain-Thil et François Deveau, 2 victimes.
Scandalisé. Avec tous les éléments qui ont été détaillés depuis 2 jours et demi, j'ai l'impression qu'en 10 minutes, on vient de tout balayer d'un revers de la main.
Bah, Dieu merci, c'est prescrit. Hein. Je crois que le terme est bon. On s'attendait pas à des miracles sur la position du parquet. Celui qui décide à la fin, ça reste quand même le tribunal.
Le procès se poursuit encore ce matin avant une très probable mise en délibéré du jugement. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
C'est un coup de tonnerre en République démocratique du Congo. L'opposant Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de la présidentielle par la commission électorale. Si ce résultat était confirmé, ce serait la première fois depuis l'indépendance en 1960 qu'une alternance démocratique interviendrait dans ce pays.
À suivre dans ce journal, la prévention du cancer du col de l'utérus. La France passe la vitesse supérieure. Dépistage dégénéralisé dans les prochaines semaines. À tout de suite.
Il est 6h37. Il est 6h38, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan. Le cancer du col de l'utérus, ce sont 1000 femmes qui en meurent chaque année.
Oui, et pour faire baisser ce chiffre, les autorités de santé veulent généraliser dans les semaines qui viennent le dépistage. Les explications de notre spécialiste santé, Mélanie Gomez.
Dès le mois de mars, les premiers courriers invitant les femmes à aller faire un frottis de dépistage arriveront dans leur boîte aux lettres. Concrètement, ce sera d'abord les femmes entre 60 et 65 ans qui vont recevoir cette invitation, suivront ensuite tout au long de l'année les autres à partir de 25 ans, en tout cas toutes celles qui n'ont jamais réalisé un frottis ou alors qui n'en font pas assez régulièrement. Et ça fait du monde, environ 6,8 millions de femmes qui ne réalisent pas cet examen essentiel tous les 3 ans comme c'est recommandé. Du coup, grâce à cette invitation, il leur suffira de prendre rendez-vous chez un gynécologue, un généraliste ou encore une sage-femme. L'examen, le frottis en lui-même et son analyse seront pris en charge à 100%, c'est-à-dire que les femmes n'auront rien à payer, juste le montant de la consultation. Alors l'objectif, c'est vraiment que les 40% de femmes qui ne font jamais ou pas assez souvent de frottis s'y mettent, même en l'absence de rapport sexuel, même après la ménopause, et ça c'est très important, car après 50 ans, les femmes délaissent bien souvent leur suivi gynécologique, or c'est une grosse erreur, car l'âge moyen de décès d'un cancer du col de l'utérus, c'est 64 ans.
Mélanie Gomez, la spécialiste des questions de santé pour Europe 1.
Parlons maintenant des fake news, ces fausses nouvelles qui se propagent sur Internet et que le gouvernement essaie de combattre.
Oui, une loi a même été votée pour tenter d'endiguer le phénomène, mais alors que l'arsenal législatif se renforce, les techniques des propagateurs se développent encore plus rapidement avec la montée en puissance de ce que l'on appelle les deep fakes. Traduisons ainsi, mensonges en profondeur. Il s'agit de vidéos plus vraies que nature et pourtant totalement truquées. Aude Leroy.
Le président Obama, qui face caméra traite son successeur de dipshit.
President Trump is a total and complete dipshit.
Ce qui veut dire littéralement sombre merde. L'actrice américaine Scarlett Johansson, qui se retrouve dans des films porno, ce sont les exemples les plus connus de ces deepfakes, c'est-à-dire ces vidéos tellement bien conçues par intelligence artificielle qu'on les croit réelles. Imaginez alors la retransmission sur une télé ou des réseaux sociaux d'une conférence d'un homme politique connu, même mimique, même voix, et pourtant tout est faux, explique Loïc Guézo du CLUSIF, le club de la sécurité de l'information.
Vous avez un acteur manipulé par des techniques d'intelligence artificielle et qui peut répondre par exemple à des questions posées en direct par des journalistes. Le gros danger, c'est lorsque ces techniques vont vraiment être utilisées par exemple par des pays étrangers qui ont des gros moyens de calcul informatique, et donc là les images qui vont être générées vont être totalement indécelables par un œil humain devant sa télé ou sur son smartphone ou sur son ordinateur lorsqu'on consultera ces vidéos.
C'est un danger réel à l'approche des élections européennes. Alors pour ne pas tomber dans le piège, surtout ne pas se précipiter, attendre pourquoi pas un démenti de l'homme ou de la femme politique, faire appel en fait à son bon sens.
Aude Leroy pour Europe 1.
Merci, c'était le journal de David Doucan. David, dont je vous disais hier qu'il traversait en ce moment une petite phase de déprime.
Pas du tout.
Rien de grave. trois fois rien. Il a simplement perdu tout intérêt pour son métier et le goût de la vie en général. Mais il se rassure en se disant qu'il n'est pas le seul, ce qui est astucieux.
Ça va les chatons ? On est tous au mois de janvier là. Janvier, les gens sont au bout de leur life.
Erreur du temps ! Certaines heureuses natures sont, Dieu soit loué, hermétiques à ce spleen de janvier. Regardez Céline Dacosta, elle rayonne, on se croirait mi-mai.
Voilà.
Alors Céline, en plus le temps est avec nous aujourd'hui.
Exactement, puisque c'est le retour du soleil aujourd'hui, mais ça ne va pas durer. Puisque demain... C'est le retour des nuages. Mais enfin, en tout cas, on en profite. Hein. On profite de cette lumière aujourd'hui. Avec de larges éclaircies un petit peu partout ce matin, sauf sur les Pyrénées, la région Rhône-Alpes, jusqu'en Alsace, avec de la neige en altitude. Encore un vent fort près de la Méditerranée. Il va faiblir un petit peu cet après-midi. On aura encore de bonnes rafales. Hein. 80 km à l'heure pour le Mistral et la Tramontane. Les nuages reviendront, je vous le disais, sur la moitié nord tout doucement. Et puis demain, ce sera bien couvert et faiblement pluvieux. Les températures sont hivernales. On ne dépassera pas les 8 degrés cet après-midi, sauf dans l'extrême sud-est, avec 13 degrés par exemple. À Toulon.
Merci Céline.
Europe 1. Il est 6h42, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures où l'info et le rire chantent en canon avec à peu près la même justesse qu'Eva Rock et Céline Dacosta. Reprenons Eddie Mitchell.
Prenez avec moi tous en cœur.
À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent au programme aujourd'hui. L'année record de Panini, grâce notamment à l'effet Coupe du Monde. Et cette question politique, au fait, quoi de neuf à gauche? En un mot, comme dirait le toujours modeste Axel de Tarlé.
Ça vous embouche un coin, hein?
Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le procès de Mehdi Nemmouch commence aujourd'hui à Bruxelles. Le djihadiste français jugé pour la tuerie du musée juif de la capitale belge en mai 2014. Quatre personnes avaient alors été assassinées. Le boxeur de l'acte 8 des Gilets jaunes est en prison. Christophe Détinger, vu sur une vidéo en train de frapper des gendarmes, a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès, fixé au 13 février prochain. Enfin, c'est un coup de tonnerre en République démocratique du Congo. C'est l'opposant Félix Tshisekedi qui a été proclamé vainqueur de la présidentielle par la commission électorale. Si ce résultat a été confirmé, ce serait la première fois depuis l'indépendance en 1960 qu'une alternance démocratique interviendrait dans ce pays.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils sont réunis dans ce studio comme chaque matin aux alentours de 7h moins le quart, affûtés comme Wonder Woman, Iron Man et Captain America. Intellectuellement en tout cas, voici les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique et pour l'économie, celui qui pousse le perfectionnisme jusqu'à répéter sa chronique au zinc du bar tabac Le Balto en face d'Europe 1, ce qui d'ailleurs impacte légèrement sa chronique.
Avec une valeur boursière de 797 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB des Pays-Bas, ça vous embouche un coin hein.
Pour rentrer chez vous, monsieur, maintenant, lui souffle alors le patron du Balto qui n'a jamais cru que le type bossait vraiment à Europe 1. Bonjour Axel de Tarlé.
Bonjour, ce sont d'épouvantables trucages.
Oui, mais enfin, les rires étaient là.
Hein.
Ce matin, vous nous parlerez des cartes de foot Panini, preuve que vraiment vous passez beaucoup trop de temps au Balto. Mais d'abord, priorité à la politique avec vous, Mickaël Darmon. Les partis doivent s'organiser pour les élections européennes. Ça y est, il faut constituer une liste et désigner une tête de liste. Le Rassemblement national le fera ce week-end, pendant que des tensions se font sentir au sein des Républicains. Et à gauche, on attend la décision d'une personne qui pourrait bien bousculer le jeu, Ségolène Royal.
Eh oui, mais sauf que même dans son entourage immédiat, on ne sait pas vraiment dire quelle décision Ségolène Royal va prendre à la fin du mois. Et elle déconcerte effectivement ses soutiens les plus proches. S'ils n'ont aucun doute sur son envie de revenir en politique, il est clair pour eux qu'elle hésite encore à se lancer aux européennes. Il est question, on le sait, qu'elle mène sa propre liste avec des écologistes et des personnalités de la gauche. Donc Ségolène Royal entretient le doute plus que quelques jours. C'est vrai qu'un accord avec les Verts aurait facilité les choses. D'autant que l'espace politique existe depuis les difficultés de la France insoumise. Il est vrai également que la situation politique à gauche est telle que les anciennes rivales de Ségolène Royal, telles Martine Aubry ou Anne Hidalgo, qui n'avaient jamais ménagé, eh bien, considèrent maintenant que l'ancienne candidate à l'élection présidentielle peut permettre d'éviter une débâcle électorale, voire d'obtenir un score à deux chiffres aux élections européennes du printemps. Et même François Hollande s'est rangé à cette idée alors qu'il ne voyait pas forcément le retour de Ségolène Royal d'un œil favorable il y a encore quelques mois.
François Hollande, qui lui de son côté observe de près la situation politique, il continuera à prendre la parole, mais dans quel but?
Alors des déplacements, un colloque à Sciences Po, des interviews, ce sera le programme de François Hollande jusqu'au mois de mars. À cette période, l'ancien président de la République se mettra en réserve électorale pour cause de campagne européenne. D'ici là, il donnera son avis sur un quinquennat qu'il considère évoluer selon le principe qu'il avait dicté dans son livre « Le vieux monde est le mien et il y a de l'avenir ». En petit comité, François Hollande considère que la pratique du pouvoir démontrée par les équipes d'Emmanuel Macron, tout simplement, met à mal l'idée des jeunes au pouvoir. Et il se dit persuadé que lors des prochaines élections, les Français redonneront leur suffrage et leur confiance à des candidats expérimenté. C'est la raison pour laquelle il suivra avec beaucoup d'intérêt les initiatives qui se préparent pour le lendemain des européennes du côté des anciens du PS afin de relancer la gauche socialiste. Bref, on l'a compris, les vétérans du PS préparent leur gilet anti-jeunes.
Bien joué. Merci beaucoup, Mickaël Darmon. Mais bon, il n'y a pas que la politique dans la vie. Il y a aussi les cartes Panini. C'est pour ça que je me tourne vers Axel de Tarlé. Mon dauphin d'or, vous êtes penché donc sur l'entreprise Panini qui enregistre des ventes records avec la Coupe du Monde, j'imagine.
Voilà, exactement. Parce que Panini a annoncé hier son chiffre d'affaires pour l'année 2018 et ce chiffre d'affaires tutoie le... Alors, on n'a pas de chiffre précis parce que c'est une entreprise familiale. Donc, je les ai appelés, ils ne communiquent pas. Bah oui, quand on est une entreprise familiale, on n'a pas obligation de publier dans les médias tous ces chiffres. Mais ils indiquent qu'ils tutoient le milliard d'euros de recettes, c'est-à-dire un chiffre en hausse de 31% par rapport à la dernière Coupe du Monde de 2014. Alors, immédiatement, je leur ai dit, bah, c'est parce que vous avez beaucoup vendu d'albums en France, qui n'a pas son album Panini, tenez.
Bah moi je l'ai.
Je vous l'ai même apporté, celui de mon fils. Ah mais,
vous voyez, et alors, est-ce que vous avez pas les cartes? Parce que moi, il me manque Mbappé. Hein.
Non. Ah bah voilà, moi je l'ai.
Oh,
et
vous l'avez.
Il est collé. Et ils m'ont dit, alors oui, on a très bien marché en France, mais la France, vous savez, ça n'est qu'un petit marché. Enfin, c'était un grand marché, mais c'est pas ça qui explique notre succès. Nous sommes présents dans 120 pays. Et d'ailleurs, ils m'ont fait remarquer, vous savez, Panini, l'album, il sort en avril et l'objectif, c'est l'essentiel des ventes sont réalisées avant la Coupe du Monde. Mmh. L'essentiel des ventes se font dans les cours de récréation en avril,
en prévision de l'événement.
Juin, voilà. Et par exemple, ils ont très bien marché, m'ont-ils expliqué, au Pérou, parce que pour la première fois, le Pérou a participé à sa Coupe du Monde. À cette Coupe du Monde, c'était une première depuis 1982, depuis 36 ans. Ils ont très bien marché, évidemment, en Allemagne. Alors même si l'Allemagne a eu un parcours catastrophique, peu importe. Avril, mai, juin, les petits Allemands ont acheté des cartes. Ils ont même marché, m'ont-ils expliqué, en Italie.
Alors qu'ils n'étaient pas qualifiés.
Voilà, ouais. Bah, les Italiens, malgré tout, ils achètent du Panini, c'est dans leur gène. Alors, d'où l'intérêt de sortir en avril. Le seul problème quand vous sortez vos cartes Panini en avril, c'est qu'on ne connaît pas la composition exacte des équipes nationales. Didier Deschamps l'aura révélé bien plus tard. C'est pour ça que si vous regardez la France, et bien par exemple, Il n'y a pas
Benjamin Pavard.
Exactement, ah bah oui. L'auteur de ce fabuleux but
et
contre
l'Argentine. Il y a Rabiot.
Voilà, mais il n'y a pas Pavard. Alors, non, pourquoi je vous parlais de Pavard? Parce que pour le plaisir, je voulais passer ce petit extrait sonore. Tout le monde s'en souvient.
Oh oui.
30 juin, France-Argentine.
Benjamin Pavard! Oh, il nous fait une nacho! Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard! Quel match!
Voilà. Ah, ça c'était un merveilleux souvenir. On en a tous encore des frissons. Et il est complet votre album Panini?
Non, il n'est pas complet. Mais vous savez que c'est très difficile d'avoir un album complet. Il y a un chercheur qui a calculé que si on fait pas d'échange, il faut acheter tous les stickers. Il faudrait quasiment dépenser près de 900 euros.
Je rappelle qu'on est dans l'édito économique.
Non, mais 900
euros. Près de 900 euros pour
avoir
un album complet. D'où l'intérêt des échanges. Et c'est ce qui fait tout le charme de cet album Panini.
Mais on pourra peut-être se voir après l'émission pour faire des échanges, échanger un petit peu. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde? Ne levez pas les yeux au ciel. C'est très sérieux les cartes Panini.
Je suis un peu jalouse, c'est tout.
Ah, c'est pour ça. Ouais. Faut cul avec ça. Alors Eva, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
Eh bien écoutez, il y a deux programmes qui méritent l'attention ce soir. La série italienne Il Miracolo sur Arte à 20h55. On est à Rome et la statuette d'une vierge qui pleure des larmes de sang va venir bouleverser le quotidien de plusieurs personnages. C'est une série dont le sujet principal est la croyance. Sublime sur un plan esthétique, difficile d'ailleurs de ne pas penser au film du réalisateur Sorrentino et rythmé par une tension qui nous garde scotchés devant l'écran. Je vous la recommande grandement. Et puis sur France 2, je vous recommande aussi un des sujets d'Envoyé spécial qui est intitulé « Cacao, les enfants pris au piège ». Le grand reporter Paul Morera a choisi de s'intéresser à la filière du cacao en Côte d'Ivoire. Et en quelques jours, ce qu'il va découvrir est édifiant.
Nous avons découvert tous les crimes que l'industrie s'est engagée à éradiquer. L'esclavage, le travail des enfants et la destruction de la nature. Pourtant, chaque jour, des dizaines de tonnes de ce cacao rentre dans un circuit commercial normal.
Alors grâce à l'aide d'une association, Paul Morera va découvrir des hectares de plantations non déclarées, cultivées par des enfants, des esclaves.
La ville de Giglo se trouve à 40 km de la forêt. C'est là que débarquent les enfants du Burkina. Ils sont vendus par leurs parents pour aller travailler dans le cacao. 200 000 francs CFA, c'est 300 euros. Le prix d'un jeune esclave pendant 3 ans.
des années à travailler gratuitement avant de pouvoir recevoir quelques parcelles de terre pour cultiver à leur tour cet or noir. Voilà ce qui attend ces enfants venus du Burkina Faso. Et ce cacao produit par des gamins se retrouve ensuite sur le circuit international de production avant de débarquer dans les rayons de nos supermarchés. Alors les géants de l'agroalimentaire ont beau faire des déclarations destinées à promouvoir un cacao plus éthique,
oui,
plus responsable.
On voit ça sur les paquets. Oui,
exactement,
plus.
Voilà, et vous allez le voir dans ce reportage.
Et vous voulez dire que ces labels ne sont pas fiables ?
Eh bien, c'est-à-dire que sur le terrain, peu de process sont mis en place quand même pour la traçabilité notamment de la matière première. Et Paul Moreira aura toutes les difficultés d'ailleurs à confronter les industriels à cette réalité sociale. Il y arrive, il va à Davos rencontrer cet agroalimentaire, une enquête qui pourrait vous laisser comme un goût amer dans la bouche quand vous dégusterez votre carreau de chocolat devant la télé, mais qui est nécessaire. Et c'est dans Envoyé spécial à 21h sur France 2.
Merci beaucoup Eva Roque, merci Axel de Tarlet, Mickaël Darmon. Les trois fantastiques seront de retour demain, peu avant 7h moins le quart. Et Axel, promettez-moi une chose pour demain, venez sobre et pas de quiz.
Ben oui, j'aime bien les quiz.
C'est pas gagné.
Il est 6h53, Mathieu Noël.
Chères auditrices, chers auditeurs, l'heure des adieux approche. Debout les copains va bientôt se retirer en vous disant, comme Patrick Bruel à Bercy en 97,
merci pour ça.
Enfin, tout compte fait, on fera peut-être plus court, hein, parce qu'il y a quand même le débrief de la matinale de Nico Saliagas aussi.
Il est 6h54, Mathieu Noël.
Un volcan s'éteint, un être s'éveille, disait la pub. C'est le moment toujours émouvant du passage d'antenne entre Debout les copains et la matinale de Nico Saliagas. Passage d'antenne où je suis payé, je m'en excuse toujours auprès de lui, pour me foutre de sa gueule.
Pourquoi tu ne me regardes pas dans les yeux ?
Bah parce que j'ai peur de m'en prendre une. C'est-à-dire qu'à force, c'est un projet que vous pourriez commencer à nourrir. Non, je sais que vous n'y songez pas. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous remercier, Nico, pour votre sens de l'autodérision qui ne se dément pas au fil des mois. Certains animateurs vedettes en auraient eu marre qu'on les fasse tourner en bourrique. Pas vous.
Alors, pour ceux qui nous enregistrent à notre insu, contre notre propre plein gré, je vous emmerde.
Ça, tu peux dire, il ne reprendra pas.
Dieu que vous me connaissez mal, Céline. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile de connaître bien un collègue. Hein. Au bureau, les relations sont souvent superficielles, sauf entre Nico Saliagas et Hélène Zelani. Ça fait maintenant longtemps déjà qu'à part leurs conjoints respectifs, tout le monde a compris qu'il y avait Anguille Souroche. Les amants du news ont même déjà passé la phase de la passion pour entrer dans celle moins folichonne de la routine du couple avec son lot de rancœurs, de reproches. Écoutez plutôt ce off saisi sur le vif hier matin. Si vous êtes marié, ça vous rappellera des trucs.
A tout de suite sur Europe 1 avec Hélène Zelani.
T'as oublié de me dire que j'étais belle.
Pas mes pieds dans la glace. Tu les trouves jolies. Et mes cuisses. Tu les trouves jolies, mes fesses.
Englué dans ses problèmes de couple avec Zelani, il est normal.
C'est dans quel film, ça ?
C'est le mépris.
Magnifique.
Il est normal que Nico cherche le réconfort dans les bras d'une autre, et pourquoi pas, puisqu'il est moderne, dans les bras d'un autre.
Bonjour David Doucan.
Oui, parfois, même dans une matinale info, le temps s'arrête, s'éclipse devant la puissance d'un coup de foudre et oubliant qu'il est à l'antenne et accessoirement son hétérosexualité, il déclare :
vous savez quoi David Doucan ?
Dites-moi.
Je vous aime bien.
Impossible, des déclarations passionnées, cette matinale ressemble déjà beaucoup à un film hollywoodien. Et ce n'est pas la présence de Laurent Cabrol qui va me démentir. Lolo qui se place désormais à lui tout seul en concurrent direct de DreamWorks. Après avoir frôlé l'Oscar pour son imitation du volet qui couine, Laurent Cabrol, le magicien de la bouche, the magician of the bush, comme on dit là-bas, revient avec une imitation buccale plus sidérante encore, le vent.
Et sur le bassin méditerranéen, nous aurons du vent.
Vous le faites bien, le vent.
Vous le faites bien.
100 km/h.
Mais que reste-t-il au studio Pixar ? Pas grand-chose, à mon avis. Bravo, Lolo.
Bravo, Mathieu Noël. Merci, Eva Roque.
Merci.
Quelle belle ambiance, quel beau passage de relais. Que dire après ça ? Rien, je peux aller me coucher.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.